VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, bonjour à tous. Il est 11h en temps universel. Le président zambien Edgar Lungu a estimé que l'ambassadeur des États-Unis dans son pays n'était pas le bienvenu après ses récents propos dénonçant la condamnation à 15 ans de prison d'un couple d'homosexuels. Le mois dernier, le diplomate américain Daniel Foote s'était publiquement dit horrifié de la décision de justice visant des homosexuels, suscitant des réactions extrêmement vives en Zambie. Dénoncé par ses opposants pour ses pratiques autoritaires, M. Lungu a vivement critiqué les propos de l'ambassadeur américain dimanche lors d'une allocution devant une congrégation religieuse de Choma dans le sud de la Zambie. Face à la recrudescence des attaques terroristes dans le Sahel, un sommet extraordinaire a réuni dimanche à Niamey, au Niger, les 5 chefs d'État du G5 Sahel, le président nigérien et ses homologues du Burkina Faso, du Mali, de la Mauritanie et du Tchad ont réitéré leur volonté d'améliorer la coordination entre la force conjointe, les forces de défense et de sécurité nationale et les forces internationales liées. Le point avec notre correspondant à Niamey, Abdul Razak Idrissa.
Le principal sujet sur lequel les conclusions de ce sommet de Niamey étaient attendues, à savoir la réunion de clarification à laquelle le président français a invité les 5 chefs d'État du G5 Sahel, n'a fait l'objet d'aucune référence claire dans le communiqué final lu par le secrétaire permanent du G5 Sahel, Maman Sambo Sidikou.
Les chefs d'État ont réaffirmé leur détermination à consentir plus d'efforts dans la mobilisation des ressources internes pour faire face au terrorisme sous toutes ses formes. Les chefs d'État ont réitéré leur volonté de tout mettre en œuvre pour améliorer la coordination entre la force conjointe, les forces de défense et sécurité nationale et les forces internationales alliées. Au regard des nombreuses attaques enregistrées dans la zone des trois frontières, Burkina, Mali, Niger, les chefs d'État décident de mobiliser davantage de forces dans le fuseau centre, particulièrement affecté par l'action des groupes armés terroristes. Ils décident de mettre un accent particulier sur la lutte contre le trafic d'armes et de drogue, principale source de financement du terrorisme au Sahel.
Répondant aux questions des journalistes, le président en exercice du G5 Sahel, le Burkinabé Roch-Marc Christian Kabore, a évoqué la question des alliances que les pays membres du G5 Sahel ont avec les pays occidentaux, la France notamment. Pour lui, les critiques contre la présence des alliés au Sahel sont justifiées au vu des résultats maigres dans la lutte contre le terrorisme sur le terrain.
La France n'est pas le seul allié dans le combat et dans la lutte contre le terrorisme dans notre sous-région. C'est pour cela que nous voulons dire qu'il nous faut ensemble coordonner les actions militaires entre le G5, la MINUSMA, et les forces alliées qui travaillent avec nous sur le terrain de manière à remporter des victoires. Lorsque vous êtes en alliance ou vous travaillez sur le terrain et que finalement c'est le terrorisme qui gagne le terrain, cela amène également un découragement qui est normal au niveau des populations. Il faut que nous nous réorganisions et que nous voyons comment nous allons assurer une lutte efficace, une lutte sans merci, une lutte qui amène des résultats, une lutte qui nous permet de détruire les bases du terrorisme afin de sécuriser nos populations.
Le président nigérien Issoufou Mahamadou, hôte du sommet, a lui, un peu plus tôt dans la matinée à l'ouverture, indiqué que ceux qui s'attaquent aux alliés dans la lutte contre le terrorisme et qui veulent défaire ces alliances font pire que ceux qui attaquent les troupes des pays du G5 Sahel, à savoir les terroristes. Abdelrazak Idrissa, à Niamey, pour VOA Afrique.
22 civils ont été tués au cours d'une nouvelle attaque des forces démocratiques alliées, les ADF, dans la nuit de samedi à dimanche dans la région de Beni, dans l'est de la République démocratique du Congo, où les habitants critiquent l'inefficacité du renforcement des opérations de l'armée régulière. Depuis le 28 novembre, le chef d'état-major des forces armées de la RDC, le général Célestin Mbala, s'est installé avec son équipe à Beni. Un autre général d'armée, John Numbi, inspecteur général des FRDC et proche de l'ex-président Joseph Kabila, a été envoyé en renfort quelques jours après. Toujours en RDC, réaction de l'opposition après le tout premier discours du président Félix Tshisekedi sur l'état de la nation devant le Congrès. Pour la coalition Lamuka, le chef de l'État congolais a plutôt fait une allocution d'entrée en fonction avec de nombreuses promesses alors qu'il a déjà fait près d'un an au pouvoir. Écoutons le président actuel de la MUCA, Adolphe Mozito.
Au lieu de faire l'état des lieux, il a présenté plutôt un programme comme s'il venait d'arriver et qu'il était en campagne pour se faire élire. Faire un état des lieux signifie qu'il allait dire « Moi, j'ai été élu sur base de tel programme, j'ai promis ceci près d'un an après de mon mandat. Voilà ce que j'ai réalisé. Quelles sont les performances, quelles sont les difficultés et comment il compte améliorer dans les mois ou années qui viennent. » Donc, il est resté sur des promesses, etc. farfelu qu'il ne pourra pas réaliser. Il a mis l'accent sur un programme de 100 jours, dont il a dit qu'il était exécuté par les services de la présidence. Or, les services de la présidence ainsi que le président lui-même n'ont pas compétent de gérer le pays. Et il insiste beaucoup sur son programme, donc il dit qu'il a exécuté 70% en termes de décaissement financier, mais on ne voit pas sur le terrain l'exécution physique. En tout cas, en termes d'exécution physique, ça ne correspond pas aux 70% d'argent qui ont été décaissés. D'où les problèmes de la pertinence de son programme et de la bonne gouvernance.
Le président de la coalition La Mouka RDC, Adolphe Mozito, joint par Eddy Sango. Le Gabon et l'Union européenne ont achevé dimanche leur dialogue au sujet de l'élection présidentielle de 2016 et les violences qui ont suivi, ont annoncé dimanche l'ambassadrice de l'UE dans le pays et le ministre gabonais des Affaires étrangères. Les eurodéputés avaient adopté en 2017 une résolution affirmant que le scrutin manquait de transparence, ce qui, à leurs yeux, remettait en cause la légitimité du vainqueur. Le dialogue politique entre le Gabon et l'Union européenne avait alors été interrompu et n'a repris qu'en novembre 2019.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
La conférence de l'ONU sur le climat COP25 s'est achevée dimanche à Madrid par une modeste déclaration d'intention pour lutter contre le réchauffement climatique mondial. Plusieurs pays de premier plan ayant refusé jusqu'au bout de prendre des engagements plus significatifs ont déclaré des participants. Tous les pays doivent soumettre d'ici la COP26 à Glasgow une version révisée de leurs engagements. Pour l'heure, environ 80 des 190 pays participants l'ont fait, mais ils ne représentent à eux tous que 10% des émissions mondiales. En Irak, un partisan de la contestation a été assassiné à Bagdad, le quatrième en deux semaines. Le pays est en proie depuis deux mois et demi à une révolte inédite contre le régime en place, révolte qui a fait quelque 460 morts et 25 000 blessés. La campagne d'intimidation, d'enlèvement et d'assassinat n'a pas cependant entamé la mobilisation des Irakiens contre le gouvernement et son parrain iranien. Idriss Fall.
Mohamed Al-Doujaili, 24 ans, a été abattu d'une balle dans le dos non loin de la place Tahrir, épicentre de la contestation à Bagdad. Gravement blessé, il a succombé hier matin à ses blessures. Il distribuait des repas aux manifestants, tout comme Zahra Ali, 19 ans, retrouvée morte avec des marques de torture le 2 décembre. Par ailleurs, deux militants actifs sur la place Tahrir ont été blessés dans l'explosion de leur voiture à Diwaniya, où ils étaient venus rencontrer les manifestants de cette ville du sud. La semaine dernière, un autre leader de la contestation, Ali Al-Lami, 49 ans, père de 5 enfants, a été abattu de plusieurs balles dans la tête dans un quartier populaire de Bagdad. Fahem Altaï, un père de famille de 53 ans, a été tué par deux tireurs à moto alors qu'il rentrait chez lui à Kerbala. Un autre militant a été blessé lorsque sa voiture a pris feu, visiblement provoquée par une charge explosive placée sous le véhicule. De nouvelles manifestations ont eu lieu hier à Bagdad et dans la plupart des villes du sud où les administrations et les écoles sont toujours fermées.
L'émissaire des États-Unis pour la Corée du Nord a qualifié aujourd'hui les exigences de Pyongyang d'hostiles et malvenues à l'approche de l'expiration d'un ultimatum nord-coréen, mais a laissé la porte ouverte à de nouvelles négociations. Les négociations sont dans l'impasse depuis l'échec du sommet de Hanoï en février. Les États-Unis exigent que la Corée du Nord renonce d'emblée à tout arsenal atomique, alors que cette dernière réclame une levée rapide d'au moins une partie des sanctions internationales qui étranglent son économie. Le président libanais Aoun Michel a annoncé aujourd'hui le report pour la deuxième fois en une semaine des consultations parlementaires en vue de désigner un nouveau premier ministre après des violences nocturnes entre forces de l'ordre et manifestants sous la pression de la rue. Le premier ministre Saad Hariri a démissionné le 29 octobre, près de deux semaines après le début d'un mouvement de contestation populaire inédit, fustigeant toute la classe politique accusée de corruption et d'incompétence. Les consultations parlementaires avaient été fixées dans un premier temps au 9 décembre avant d'être reportées d'une semaine. Jean-Roger Billon à ce micro. Aux prochaines infos dans 50 minutes. Vous retrouverez Henri Francisque pour un nouveau journal. Bon après-midi à tous sur le continent.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.